sous les couvercles, la good food.
Pourquoi certaines civilisations ont-elles interdit le porc, d'autres l'alcool, depuis le fruit défendu du Jardin d'Éden jusqu'aux nouvelles orthodoxies alimentaires contemporaines? Notre assiette raconte bien davantage que nos goûts. Elle dit la frontière entre le pur, l'impur, le permis ou l'interdit. C'est tout l'objet de votre travail, Nathalie Elal. Dans cet ouvrage, Tu n'en mangeras point, publié aux éditions Talendier, vous nous entraînez, Nathalie, sur plusieurs millénaires d'histoire pour nous raconter ce qu'on a pu manger ou pas. Alors on va démarrer par peut-être la matrice de tout, ce fruit défendu, le début de tous les interdits, le Jardin d'Éden. On est dans un monde d'abondance absolue, la terre nourrit sans effort, le régime y est végétal, édénique au sens littéral, il suffit de tendre la main et pourtant on nous interdit quelque chose. Racontez-nous.
Oui, alors effectivement, il n'y a pas de boulette ni de barbecue dans le Jardin d'Éden. Hein. C'est un jardin idyllique, parfait. C'est vraiment le monde parfait. Hein. D'ailleurs, on a parlé de paradis perdu, ce n'est pas pour rien. Et effectivement, il y a cet arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait une façon pour Dieu de mettre une frontière absolue, hein, tu n'en mangeras point de ce fruit de l'arbre. Alors, on suppose qu'en fait, ce n'était pas pour interdire le fruit en lui-même, c'était pour montrer à l'homme et à la femme qu'il fallait être éduqué et ne surtout pas désobéir à Dieu. Et bien entendu, l'être humain ne peut pas s'empêcher de désobéir parce que la transgression, eh bien, prend tout son sel une fois qu'on a désobéi, même si la chute ensuite est très, très dure. Plus dure sera la chute. Donc, cet arbre fruitier, on a souvent dit que c'était une pomme, enfin c'est en tout cas communément admis, mais en réalité on n'en est pas sûr du tout, hein, Sophie.
Donc ça aurait pu être une feuille de vigne,
ça aurait pu être une figue, absolument, une grappe de raisin, une grenade aussi. Voilà, parce que le mot qui est consacré, c'est le mot péri. P-E-R-I, qui veut dire fruit. Mais on n'a jamais dit la pomme. C'est ensuite qu'on a décidé que ce serait une pomme qui représenterait ce symbole de l'interdit.
Nathalie, ce symbole de l'interdit, ouais, je retiens le mot symbole, parce qu'au fond, dans votre livre, on parle énormément des interdits réels et vraiment très concrets. Et cet interdit-là, oui, de cette pomme qui n'était pas une pomme, finalement, il est tout à fait symbolique, parce qu'on n'a jamais empêché, qui que ce soit, de manger des fruits.
Oui, alors en fait, il y a une raison qui pourrait expliquer pourquoi la pomme aurait été l'élue du casting fruitier, comme je l'appelle. C'est que au 5e siècle, il y a un érudit qui s'appelait Jérôme de Stridon, qui a été chargé de traduire la Bible en latin. Et en réalité, il y a deux mots très proches, malum, qui veut dire le mal, et malum, avec un petit trait au-dessus du A, qui signifie la pomme. Donc, il y aurait eu cette confusion, peut-être délibérée, de la part de Saint Jérôme, de mettre l'accent facile, si je puis dire, sur la pomme, comme symbole du mal et du fruit interdit, du fruit défendu.
Le Jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est l'origine de ce fameux péché de gourmandise, réellement ?
Oh, péché de gourmandise, je pense que c'est venu après. C'était pas par gourmandise que Ève a croqué dans la pomme. D'ailleurs, la pauvre Ève, on lui a fait porter le chapeau de tout, hein, évidemment, une femme. Non, je pense que le péché de gourmandise, c'est venu après, bien plus tard, avec... on voit d'ailleurs, j'en parle dans le livre aussi, vous savez ce conte très joli de Daudet, Alphonse Daudet, les trois messes basses, où on voit bien le diable tentateur sous les traits d'un jeune aumônier, qui vient, Saint-Christin, qui vient tenter un prêtre qui va précipiter les messes de Noël, du réveillon, pour pouvoir ensuite aller s'attabler à un festin absolument incroyable, où il y a des volailles grasses et des truffes, etc. Donc le péché de gourmandise, il est présent tout du long de notre histoire, mais je ne pense pas que pour la pomme, ce soit vraiment le péché de gourmandise, je dirais plutôt le péché de la désobéissance et de la connaissance, de la volonté de connaissance, de s'affranchir de Dieu.
Dans le Jardin d'Éden, Nathalie Elal, le régime alimentaire est donc strictement végétal. À partir de quand vient l'autorisation de manger de la chair animale et du sang ou pas ? Vous intéressez beaucoup à ça dans ce livre.
C'est à partir du moment... Alors, je parle plutôt de la religion juive, hein, effectivement. Bon, il y a eu d'abord ce premier péché qui a précipité Adam et Ève en dehors, effectivement, du paradis. Et puis ensuite, on va dire que Dieu a donné une seconde chance. En tout cas, c'est ce qui est un peu implicite dans la Bible, dans les Écritures, avec Noé. Et donc, Noé qui est un peu sauvé du déluge avec toutes les espèces à bord de son arche. Et là... Là, on lui autorise finalement la viande, mais l'interdit du sang, lui, il reste très vivace, très tenace. Il ne faut absolument pas toucher au sang, qui est le souffle de la vie, le souffle du Créateur. C'est-à-dire que si l'homme a le droit de consommer un animal, des animaux, d'une manière générale, eh bien, il ne doit surtout pas, en tout cas, toucher au sang et doit rendre le sang au Créateur, puisque le sang contient ce souffle de l'âme.
Le sang, néanmoins autorisé dans le christianisme, interdit dans la culture juive et dans l'islam aussi.
Le sang est interdit aussi dans le christianisme pendant longtemps.
Oui. Hein,
c'est toujours pareil. C'est un des rares interdits qui a été repris, justement, de la religion juive et que le christianisme a repris pour son compte.
Mais
justement pour la même raison.
Mais pourquoi ?
Souffle de Dieu.
Mais pourquoi, à un moment, notre Église chrétienne a décidé d'admettre ce sang, de l'accepter dans nos traditions alimentaires ?
Parce qu'il y a eu un assouplissement.
On n'allait pas se priver de boudin non plus, oui.
Il y a eu Vatican II, il y a eu une sorte d'assouplissement, heureusement d'ailleurs, parce que bon, quand même. Mais même avant, enfin bon, ça a été très progressif tout ça. Les interdits, en fait, sont aussi faits pour être assouplis, et heureusement, parce que sinon, on aurait encore peut-être beaucoup trop d'interdits, on serait peut-être encore trop dans des structures très strictes, alors bien que certains observent strictement dans leur religion, effectivement, des préceptes.
Mais est-ce que, justement, sans vouloir donner des bons points, des mauvais points, ou même y mettre une quelconque opinion, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au niveau des interdits alimentaires, dès qu'on a inventé le christianisme et plus encore le catholicisme, on n'a pas été, ceux qui l'ont inventé, n'ont pas été très rapidement les champions de la tolérance à géométrie variable. On a mis le péché de gourmandise.
Alors je ne peux pas vous laisser dire invention, hein, Carlo, on va se faire des ennemis. Vous savez, moi, je ne veux surtout pas.
Non, et vous le faites.
Je précise, ça me paraît important.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est absolument remarquable dans votre livre, c'est que vous avez à la fois un abord philosophique, mais aussi scientifique, puisque on ne vous sent jamais en prise de position, ni en jugement. Donc, vous faites très bien de me reprendre par rapport à ça.
Merci, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que vous doutez bien que c'est un petit peu quand même un terrain glissant qui laisse prise à beaucoup de boulettes. Hein. Donc, moi, je ne voulais surtout pas heurter des gens dans leur croyance, dans leur culture. Moi-même, je suis issue, enfin, ma propre famille est un mélange de cultures et de religions différentes. J'ai des origines catholiques et juives. Mon mari est égyptien musulman. Donc, je suis vraiment très... Je parle en tout cas des monothéismes, hein, parce que dans le livre, j'aborde aussi, comme vous le savez, d'autres religions, les religions orientales. Mais c'était très important pour moi, en me lançant sur ce sujet, de respecter et de montrer le respect que j'ai pour les croyances de chacun, puisque justement, ce livre, c'est peut-être aussi un appel à mieux comprendre et à mieux tolérer ce qui se passe sur la table des voisins.
Allez, je vais vous faire plaisir. Quand la religion chrétienne s'est révélée, ou en tout cas s'est révélée à certains, quand même, on observe, sur les 2000 ans que ça existe, on observe quand même une espèce de tolérance à géométrie variable plutôt tolérante, hein, de péché de gourmandise, oui, mais le sang, vous voyez, il a fait des allers-retours, le carême, plus ou moins observé. Est-ce qu'ils ne sont pas les spécialistes de la tolérance alimentaire ?
Alors, ils sont les spécialistes des indulgences, au sens strict, les catholiques, puisque je crois que je sais où vous voulez m'amener, Carlo. Je pense que vous imaginez le sujet de la tour de beurre de la cathédrale de Rouen, par exemple, si vous voulez que je raconte cette anecdote. Par exemple, effectivement, pendant le carême, on le sait, les produits laitiers étaient évidemment interdits, beurre, crème en particulier, et dans une région comme la Normandie, c'est c'est quelque chose qui devait être vraiment un sacrifice considérable. Et ben, il y a eu toujours dans l'Église catholique, on va le dire, des gens très pragmatiques, des évêques très pragmatiques, et qui ont inventé, donc justement, ça se passe au XVIIe siècle, ou XVIe siècle, pardon, à Rouen, où l'évêque va inventer le système des indulgences et va faire littéralement payer les fidèles qui en ont les moyens pour pouvoir les autoriser officiellement à consommer ces produits laitiers interdits et qui leur manquent tant. Et à ce point qu'ils vont arriver à réunir une très jolie somme qui va permettre de faire bâtir une tour supplémentaire à la cathédrale de Rouen qu'on appellera la tour de beurre.
Oui, c'est ça. C'est une manière, peut-être, si je vous lis bien et entre les lignes, une manière pour le christianisme de rendre sa table aussi accessible à tous, aux païens, aux grecs, aux romains, aux égyptiens.
Alors, c'était du prosélytisme pratique, voilà, hein, voilà. Ça, Sophie. Oui, ça, effectivement. En fait, par rapport à la religion juive qui, quand même, d'aucuns diraient, repose sur un véritable socle et catalogue d'interdits, alors qu'en réalité, c'est identitaire. Je l'explique pourquoi ensuite dans le livre. Mais c'est vrai que les catholiques, enfin Jésus a voulu fédérer davantage, puisque deuxième religion révélée, donc il fallait faire du prosélytisme, et faire du prosélytisme, ça sous-entendait aussi convertir des Grecs, des Romains, des Égyptiens au catholicisme, donc il ne fallait pas commencer par tout interdire, sinon quel intérêt de quitter une religion pour une autre, littéralement, ou d'adhérer à cette religion-là plutôt qu'à la religion juive. Donc la table du christianisme, elle est beaucoup plus ouverte finalement, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interdits alimentaires que dans la religion juive, et l'islam ensuite, lui, va reprendre la main avec un peu plus d'interdits, ou tout au moins deux grands interdits fondamentaux,
alors
fondateurs de l'islam aussi.
Alors justement, vous parlez beaucoup dans ce livre, Tu n'en mangeras point, du judaïsme, la cacheroute, une civilisation à table, et oui. Vous l'écrivez, l'un des systèmes oui. alimentaires les plus sophistiqués du monde antique, d'une précision inouïe. J'ai presque envie de dire un casse-tête. Quelles sont les bases? Donc là, on est vraiment au cœur de la Torah, hein, les cinq livres, etc. Au fond, cette cacheroute, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Dans les grandes lignes, on va essayer de simplifier au maximum.
Alors, la cacheroute, déjà, ce qui est cachère, c'est ce qui est apte, ce qui est convenable, déjà. Ce qui, donc, peut convenir littéralement à l'individu. Mais, effectivement, il y a des interdits très forts, il y a toute une liste. Enfin, c'est absolument fou, d'ailleurs. Je pense que même certains juifs d'aujourd'hui ne s'y retrouvent pas, parce que c'est très complexe. Mais, effectivement, il y a cette histoire du porc qui est une abomination et que l'islam reprendra ensuite, mais bon, vraiment, chez les Hébreux, c'est très marqué, bon, puisque en fait, on a le droit de consommer des animaux qui ruminent et qui ont le sabot fendu, le pied fourchu. Bon, le porc ne rumine pas, donc on déclare que c'est une abomination, et on déclare tellement que c'est une abomination qu'on ne lui donne pas de nom. On le désigne en hébreu par un mot, une expression qui veut dire cette autre chose. Et au point qu'on sait que pour beaucoup de juifs pratiquants dans les temps anciens, leur faire manger, consommer du porc était littéralement une forme de torture. Mais il n'y a pas que le porc, il y a aussi les fruits de mer, les poissons sans écailles ni nageoires, et puis même, mauvaise nouvelle pour les amateurs, le caviar est interdit parce que l'espadon n'a pas vraiment des écailles au sens d'un poisson, un autre poisson, mais est recouvert quand même d'un bouclier, une sorte de bouclier. Alors c'est pas vraiment des écailles, mais la religion juive considère que quand même l'espadon n'est pas cachère, donc ses œufs non plus.
L'esturgeon.
Vous voyez, il y a beaucoup de...
C'est l'esturgeon pour le caviar, parce que l'espadon, c'est Black et Mortimer, le secret de l'espadon, on vous a reconnu.
C'est mon Alzheimer du samedi matin, pardon. Oui, l'esturgeon, bien sûr.
En parlant de poissons, j'étais très surpris en lisant dans votre livre que le caviar n'était pas autorisé. Et puis effectivement, quand vous racontez l'histoire des écailles, ça saute aux yeux. Mais en revanche, il est un mets qui, si je ne me trompe, est très apprécié des pratiquants de la religion juive et qui observent la cacheroute. C'est les œufs de mulet, c'est la poutargue. C'est là, elle est toujours autorisée pratiquement. Je me demande si elle n'est même pas cachère par nature, cette fameuse poutargue. c'est justement une question d'écailles aussi.
Je ne me suis pas penchée sur la Poutargue.
Vous êtes pas...
Je ne me suis pas penchée sur la
Poutargue. Le prochain livre.
Bien, vu Carlo poser la question qu'il ne fallait pas poser.
C'est parce qu'il est un peu, c'est parce qu'il est un peu fan. Il a
non,
peu
c'est,
fan.
Non, mais voilà, je dis ça, c'est
mais
parce
que
j'ai...
Il a raison, Carlo.
J'ai un ami sarde, vous savez que la Sardaigne et la Sicile sont des grands producteurs de Poutargue, qui me disait que c'était quelque chose qui était... il avait beaucoup de clients de confession juive qui lui achetaient de la Poutargue, et il m'avait expliqué ce côté absolument cachère, mais jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est bon la Poutargue, sinon, hein, sur des spaghettis. On va engueuler par contre les coquillages, c'est interdit dans la cacheroute.
Alors, dans cet ouvrage, Nathalie est là, tu n'en mangeras point. Bah, vous parlez effectivement de la cacheroute, des interdits de notre religion chrétienne. Vous parlez évidemment aussi de l'islam. Si le judaïsme, l'écrivez-vous, pense en termes de pur et d'impur, le christianisme pense en termes, si j'entends bien, d'intention morale, l'islam pense en termes de licite et d'illicite. En fait, il y a une histoire de feu de signalisation. Le halal.
Oui, j'appelle ça les feux.
Non, c'est ça. Mais ça explique très, très bien. Oui. En fait, vous dites des choses, on en connaît en surface les principes, mais pas le détail. Vous dites le halal, c'est le feu vert. Le haram, c'est le feu rouge. Il y a aussi le douteux, ça s'appelle le majbou. Racontez-nous tout ça, parce que c'est absolument passionnant. Et ça nous fait aussi comprendre des faits d'actualité, notamment lors de l'abattage rituel et notre besoin, nous, d'occidentaux, d'y mettre les étourdissement, ça raconte en fait énormément de choses, c'est passionnant.
Oui, alors on pourrait même rajouter à la liste le taïb, qui veut dire littéralement le bon et le saint, qui est une notion finalement que je trouve extrêmement visionnaire dans l'islam, c'est-à-dire que, cette religion quand même 7e siècle, hein, après Jésus-Christ, on décrète que certains aliments doivent être, enfin que les aliments d'une manière générale doivent être bons et sains pour le corps, c'est-à-dire qu'en fait c'est presque du bio avant l'heure, avant la lettre. Je trouve ça assez fascinant de penser que cette religion a effectivement établi une classification, même si je ne comprends pas très bien, toujours pas très bien, mais comme je ne comprends pas dans la religion juive, comme je ne comprends pas d'autres interdits alimentaires, encore une fois, sans émettre aucun, absolument aucun jugement. Et là, pour le coup, le porc est de nouveau interdit en islam. Ils rajoutent une autre interdiction qui est fondamentale et qui n'existe pas dans les autres religions monothéistes, c'est celle de l'alcool. Et elle vient aussi très progressivement parce que, si vous me permettez, j'aimerais raconter cette anecdote que j'ai trouvée, peut-être qui est pour moi la chose la plus fascinante. Quand j'ai fait mes recherches pour ce livre, je suis vraiment littéralement tombée de ma chaise en découvrant que, à l'emplacement même de la Mecque, enfin en tout cas sur ce territoire d'Arabie, on consommait allègrement, avant la révélation du Coran, on consommait allègrement de l'alcool, parce que dans cet âge qu'on appelait l'âge de l'ignorance, la jahiliya, la poésie était extrêmement valorisée, d'autres vertus l'étaient aussi, comme la bravoure des guerriers, etc. Et pour parvenir à la poésie et à la transe extatique qui permettait de produire de la poésie, il fallait un enivrement certain, ou un certain enivrement. Donc c'est quelque chose qui était très important. On consommait de l'alcool, l'alcool était même produit, enfin le vin était produit sur place, c'était aussi quelque chose qu'on offrait à ses hôtes comme un symbole d'hospitalité extrême, parce que le vin était coûteux, il était produit généralement par des chrétiens ou des juifs, et on sait même aujourd'hui un des compagnons du prophète Mohammed était lui-même, avant sa conversion bien sûr, marchand de vin à la Mecque. Vous imaginez, quand j'ai découvert ça, mais c'est fou, c'est merveilleux en fait. On tombe sur des pépites dans l'histoire de notre gastronomie.
Le porc, donc, dans l'islam, redevient interdit. Le sang reste interdit.
Oui.
Donc on doit vider l'animal de son sang avant de le consommer. La bête morte est interdite, si elle n'est pas abattue dans un rituel vraiment un rituel, comment vais-je dire, de strict, de sacré, en fait, c'est vraiment ça. L'alcool est proscrit, vous venez de le dire. Mais quand on dit de la nourriture halal, Nathalie Hélal, ça veut dire quoi concrètement? C'est... Non, mais c'est important parce que.
C'est pas la même chose que kasher, pas kasher, haram et halal. Ça, on l'apprend dans votre livre et c'est très intéressant.
Non, mais c'est le licite et l'illicite. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, il y a toute cette distinction, effectivement. Et puis, il y a aussi tout ce qui est douteux. Par exemple, je reviens sur le douteux parce qu'encore une fois, c'est très intéressant. Par exemple, la grande question des bonbons, qui est très contemporaine pour le coup, parce que certains bonbons pourraient contenir de la gélatine de porc. Donc, c'est douteux, on s'abstient d'en consommer. Vous voyez, il y a plein de nuances comme ça. Mais le porc en lui-même, je reviens sur la question du porc, le Coran décrète, mais vraiment là, il n'y a pas, on va dire, c'est absolument non négociable. C'est aussi une abomination, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas consommer. On n'explique pas pourquoi. Néanmoins, et ça aussi c'est intéressant et ça m'a beaucoup amusée, j'ai découvert que quand même, le Coran, qui est très miséricordieux et qui déclare que de Dieu est pardonneur, le Coran est très pragmatique. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans le désert et que vous n'avez, je dis le désert par exemple, en tout cas dans un endroit où vous n'avez absolument pas accès à la nourriture halal, eh bien si vous avez un porc pas loin, j'oserais dire une tranche de jambon sous la main, eh bien vous devez en manger, vous pouvez, vous êtes autorisé à en manger. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Dieu est pardonneur et miséricordieux et que, avant tout, le Coran veut préserver la vie. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve.
Alors, j'ai découvert aussi au fil de ces pages, Nathalie Hélal, qu'au Japon, eh bien, l'interdit de la viande s'est longtemps appuyé sur la notion de kegare, la souillure liée au sang et à la mort. Cette contrainte a d'ailleurs produit une sophistication culinaire remarquable, avec notamment la cuisine des temples zen, dont se sont emparés de grands chefs chez nous, et qu'il aurait fallu attendre 1872, sous l'ère Meiji, qui accepte et qui mange publiquement du bœuf. Et puis vous arrivez aux conclusions de ce livre, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2026, vous dites « Les églises se vident, mais les besoins de règles n'ont pas disparu. Il s'est déplacé, l'interdit a quitté le temple pour entrer au supermarché. Les interdits sont aussi très nombreux aujourd'hui. »
Alors, les interdits sont très nombreux, effectivement, et ils sont aussi générés par ce que j'appelle, les prophètes de nos smartphones. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est aussi pour moi, pour tout vous dire, ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, c'est de voir à quel point nous sommes tous les jours sollicités, soumis, en tout cas à des tentatives d'interdiction, en tout cas à des injonctions de la part des gourous d'Internet pour nous empêcher de manger ci ou ça. On veut nous interdire, on veut nous faire culpabiliser. D'abord, une culpabilité qui est basée sur des fondements écologiques réels. Je ne remets pas en question le fait que, par exemple, manger un avocado toast, eh bien, ça ne fait pas forcément du bien à la planète parce que ça peut assécher des régions où l'avocat est produit en très grande quantité. Je pense par exemple au Chili, où on nous interdit, entre guillemets, on nous culpabilise, on nous stigmatise parce qu'on va vouloir manger des cerises en plein hiver ou des fraises en plein hiver, etc., etc. Mais en même temps, où est la liberté de l'individu ? S'il y a bien un espace, et c'est pas moi, critique gastronomique, qui vous dirait le contraire, s'il y a bien un espace qui doit rester absolument libre, et parce qu'il est la vie même, parce qu'il est la joie de vivre même, et je pense que vous ne me direz pas le contraire non plus, c'est bien notre assiette. Évidemment. Et ce qu'on a envie de mettre dedans.
Voilà, et c'est tout l'objet de cet ouvrage absolument passionnant, Tu n'en mangeras point, écrit par vous, Nathalie Hélal, et publié aux éditions Talendier. Je vous souhaite un bon samedi, Nathalie, à tout bientôt.
Merci.
À suivre des histoires de science avec le maître Bouchella qui a enfin daigné poser son postérieur à dire en studio. On parlera de smasher la nourriture. Est-ce que c'est une bonne idée ? On en parle juste après ceci.